crainte et tremblement que je monte en avant parce qu'on a décidé de commencer ça par des questions qu'on se pose live. Je sais pas qu'est-ce que Claudine va me demander.
Je sais pas si ça va me le demander non plus.
C'est ça. Peut-être, je sais pas.
Mais dans le fond, je me demandais si on avait vraiment un message à apporter parce que, tu sais, Véro, elle a tout dit, là.
Ben oui, c'est ça.
Avant de commencer.
Tiens, regarde, Claudine.
Bon, voici, comme Véro, elle a dit, différents types de mamans. Hein, il y a comme, on sait, il n'y a pas juste les mamans qui portent les enfants, mais il y a différentes sortes de mamans. Puis justement, pour briser la glace, on s'était dit que ce serait le fun qu'on se pose trois questions, chacune notre tour, et on va voir ce que ça donne. On va voir si maman va avoir besoin de ça. On va voir.
OK, puis pour ceux qui ne le savent pas, Claudine, c'est ma fille.
Pour ceux qui ne savent pas, Mélie, c'est ma mère.
OK, Claudine, c'est quoi le plus beau souvenir de ton enfance?
Hey boy! Le plus beau souvenir de mon enfance. Hey, je me rappelle pas de la semaine passée de mes souvenirs. C'est avec mon enfance, c'est loin. J'étais en fin de session, donc... OK, mon enfance. C'est long, l'enfance. Mon plus beau souvenir. Bon, pendant que j'y pense, je vais te poser une question. C'est quel ton enfant préféré? Non, c'est pas vrai, j'ai la pause réponse. C'est déjà chez nous, je vais garder ça secret.
Non,
là,
mais ma fille préférée, c'est Claudine.
Yes! Elle, elle comptait pas.
Non.
C'était juste une question piège.
Okay.
Donc, un de mes plus beaux souvenirs de mon enfance, je pense que c'est une chasse au trésor qu'on a faite dans le bois. Donc, tout l'événement était super extraordinaire. C'était pendant nos vacances d'été, si je me souviens pas. On était au Mexique, alors si c'était l'été ou pas, je sais pas. C'était beau. Le trésor, c'était moins hot, c'était la Bible. C'est vrai que cette partie-là était moins hot. J'aurais aimé d'autres choses. Mais l'expérience, la chasse au trésor, à mon souvenir, c'est un beau souvenir.
Good.
Donc, à mon tour... Officiellement, qu'est-ce qui fait le plus du bien à une maman comme cadeau? Les hommes et les enfants, on ouvre les oreilles.
OK. Ben les gars, vous le direz aux enfants, parce que j'aurais aimé ça que les enfants soient là, parce que le plus beau cadeau pour une maman, c'est le bonheur de ses enfants puis leur obéissance. Moi, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Non. OK. La deuxième question, c'est quoi la chose la plus folle qu'on a faite les deux ensemble?
Il n'y a pas pensé, hein? C'est fou. On a fait des folies dans notre vie. La plus folle, c'est notre road trip en Angleterre, juste les deux.
Ouais, ça, c'était pas mal fou. Mais je m'attendais à ce que tu me dises, c'est quand on est allé chercher la roche pour ta fontaine, pour Luc.
Non, ça c'était même plus dans mes souvenirs.
OK.
Il me reste plus beaucoup de souvenirs. Une chance qu'il y a des photos, c'est pour ça que je suis photographe. C'est ce qui m'aide. Je garde pas les souvenirs. C'est à mon tour?
Oui, c'est à ton tour.
Ton plus beau souvenir de maman?
Mon plus beau souvenir de maman.
Son accouchement.
Ben, après l'accouchement, peut-être. Mais je pense que mon plus beau souvenir de maman, c'est quand j'ai tous mes poussins autour. Puis ça arrive au moins une fois par année. C'est ça mes plus beaux souvenirs, quand on est tous ensemble.
On peut l'en. OK, excuse. À une chance, j'ai de l'aide. Allez, femmes, on se tient. C'est bon, ça.
OK, là, c'est à mon tour, hein?
Oui.
Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse ensemble?
Prêcher. Jack. J'aime ça voir la vie d'une façon positive. Dans une heure, ça va être fait. Ouais. Rêve accompli. Et ma dernière question. Quels étaient tes réflexes quand tu te sentais seule?
Écoutais la TV.
C'est vrai, Luc?
Me prend tout mon change pour vous le dire parce que c'était un peu honteux.
Mais non, il n'y a pas de honte à ça, hein? On a chacun nos petits mécanismes de défense.
Ouais.
OK, là, on se lance dans la matière.
Ouais.
OK, là, vous pouvez nous aider pour cette partie-là.
Ouais.
C'est quoi les rôles d'une mère? On peut penser aux différentes cultures, aux différentes époques, aux saisons de notre vie aussi. Est-ce que vous reconnaissez le character, le personnage principal dans les photos? Mais oui, c'est Lise.
Mm-hmm.
Donc, je vois que vous êtes une église multiculturelle. Je peux dire pour ma part que quand moi, j'étais jeune, je connaissais la cuillère de bois. Donc, c'est quand même quelque chose qui est différent aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, tu chicanes ton enfant, tu dis, mon grand, je pense que ton comportement n'est pas acceptable. Ça serait bien que tu songes à te remettre en question, sans brimer ton identité. Je garde une voix calme et je vais dans ma chambre me contrôler et je reviens par la suite m'excuser. Hein? Moi, dans mon temps, c'est comme,
oui, c'est ça. C'était vite fait. C'était pas long. On n'avait pas besoin de penser beaucoup. Et regardez, c'est efficace.
Hey, j'en parle à mes enfants que dans mon temps à l'école, on se traitait cuillère. Puis, ça passait par là. Ils me disaient, mais maman, c'est correct. Mais pourquoi tu dis ça? Ils comprennent, une autre époque. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me parler de d'autres cultures? Ouais. Oui. Mais moi, j'ai écouté un reportage récemment que c'est une mère qui parlait aussi de comment c'est vu ici. Il y a tellement de tâches. Hein, quand ma grand-mère, on dirait, est devenue mère à sa tâche, c'était 6 enfants. Elle faisait partie de ceux qui travaillaient. Donc, elle avait aussi un emploi. Aujourd'hui, il y a comme 1 million de choses, 1 million de tâches. Les cours de soccer, la bouffe, ton travail, le linge, les cours parascolaires, le mari, à ne pas négliger, il faut s'en occuper. les tâches évoluent. Peux-tu renchérir sur ton point de vue?
Les tâches évoluent, mais on est encore toujours aussi occupé. Ça, c'est quelque chose qui change. Bon. Parce qu'anciennement, peut-être qu'il y avait moins de choses à faire, mais ce qu'il y avait à faire prenait plus de temps. Moi, je me rappelle ma mère, quand il fallait qu'elle fasse bouillir l'eau, qu'elle remplisse la machine à laver, qu'elle passe tout le linge au tordeur puis qu'elle étende ça sur la course, c'est pas mal plus long que de mettre ça dans la veuse puis peser sur le piton. Hein? Mais on était toujours aussi occupés. Je pense que c'est le modus operandi de la vie d'une maman.
Puis on a toutes nos difficultés hein, dans les cultures, dans les époques, dans les saisons. Puis je m'étais rajouté un petit astérix. Et c'est pour ça que le premier miracle que Jésus a fait, c'est de transformer l'eau en vin. Hein, c'est sa mère qui a demandé. On avait besoin de ça pour passer à travers. Première affaire.
Yes. Ouais, puis j'ai remarqué quelque chose que j'avais jamais vu avant. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est écrit « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement avec une promesse. Puis je pense que Jésus l'a mis en pratique. Parce que sa mère lui a demandé de faire quelque chose. Puis il a dit « Femme, mon heure n'est pas venue ». Puis je pense qu'après, il y a eu un éclair de génie qui a repensé « Je vais honorer maman, puis je vais faire ce qu'elle me demande ».
Ça ou elle a fait des gros yeux. Parce que Dieu sait que les yeux de ma mère, ils étaient puissants.
La fille de Serge peut en témoigner. Elle m'a déjà dit, la fille de Serge, il n'y a personne qui est capable de faire des gros yeux comme toi.
Mais malgré tous ces rôles-là, malgré toutes ces époques, ces saisons, ce qui change pas, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est ce qu'on nous demande de refléter. Hein? On veut refléter ce que Dieu est. Puis c'est pour ça quand Véro a dit tantôt, tu sais, t'es pas obligé de porter une mère. Je pense que on est avec cet instinct-là, avec cet instinct-là. Les femmes, tu sais, on est maternelle, on veut prendre soin, on veut être là. Puis ça, c'est des beaux attributs de Dieu, tu sais, qu'on retrouve dans la Bible. Ça, moi, ça m'aide dans différentes saisons de ma vie où ce que je suis comme, voyons, c'est bien difficile, c'est bien exigeant être mère. Mais je me dis, mais je suis obligée de tout faire, premièrement. Fait que dressons la liste, puis voyons c'est quoi que Dieu nous demande de faire. Puis le reste, les cours de soccer, là, c'est trop. C'est pas écrit dans la Bible, ça. C'est avoir 100% à l'école, c'est pas écrit dans la Bible. T'sais. Ce qu'on doit être pour nos enfants, mais allons chercher ça dans la parole de Dieu. Allons chercher c'est quoi que Dieu me demande d'être. C'est quoi que Dieu veut que je sois pour mes enfants.
Ouais, puis qu'est-ce qu'il veut qu'on soit pour nos enfants? C'est qu'on ait un cœur pour le chercher, lui, pour que lui puisse nous aider. Parce que tout seul, on n'y arrive pas. Moi, je peux vous dire que j'ai été une maman avant et après Jésus. C'est pas mal plus facile après.
Moi, j'ai été une maman après Jésus, puis c'est tough pareil.
Mais c'est encore plus tough quand on ne l'a pas.
Oui. Parce que des fois, quand tu l'as, tu sais ce que tu devrais faire, puis tu ne fais pas. Fait que, tu sais, ça peut venir lourd aussi. C'est culpabiliser, je pense que les mamans, on est bonnes pour ça, hein. C'est facile de rentrer là-dedans. Mais heureusement qu'on peut se dire, c'est impossible, c'est une tâche impossible. C'est pour ça que j'ai besoin de Dieu.
Ouais. Moi, je peux vous dire que j'ai grandi dans une famille où il y avait de l'amour, mais qu'il n'y avait pas toujours du contrôle. Mon père était un peu violent. Mais il était très aimant, mais il avait grandi comme ça. Fait que quand moi, j'avais pas Dieu, ben c'était facile quand je perdais le contrôle. Maintenant, on dit quand je me désorganisais, ben ce que j'avais appris remontait tout seul. Fait que je pouvais être une maman violente. Ben, je me contrôlais plus. Mais Dieu change ça.
Puis ce qu'il y a, c'est pas ça qu'on retient, les enfants. Hein? C'est pas ça qui nous reste en tête. C'est tout le reste. Je le vois dans mon cours de psycho. pas que si t'as un parent violent, ça reste pas, là. Je veux pas banaliser ça non plus. Mais c'est le quotidien. C'est le quotidien qui reste. C'est quoi qu'elle est tous les jours, cette personne-là, pour moi. Puis c'est pas sa désorganisation qui était là tous les jours pour moi. Hein? C'est tout le reste. Pis ça, c'est rassurant parce que je pense qu'il n'y a pas une mère, comme Véro disait, qui s'est pas désorganisée à un moment donné, tu sais. Mais, puis ça, c'est le fun parce que c'est pas ça que les enfants ils retiennent. Les enfants, ils savent que, même s'ils te le font pas toujours savoir, ils savent que tu es là puis que tu veux leur bien. C'est que dans le fond, on se dit, on veut être le reflet de Dieu. C'est que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on est allé chercher des versets dans la Bible qui parlent de ça. C'est quoi qu'on doit refléter? Puis, les hommes, êtes-vous encore avec nous?
Okay. Ouais.
Parce que tous ces rôles, tout ce gros rôle-là que Dieu nous donne, ça l'aide quand on a des gens autour qui nous aident. Hein? Ça l'aide quand on a
du soutien.
Tiens, quelqu'un qui nous comprend, quelqu'un qui est témoin du sacrifice qu'une mère fait, dans le fond. Donc, on se lance?
Ouais, on se lance. OK. Dans les Proverbes, on peut lire qu'elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté est sur sa langue. Elle veille à la bonne marche de sa maison.
C'est beau, hein?
Mmh. En tout cas, moi, je peux vous dire que la bonne marche de sa maison, vous pourriez demander à tous mes enfants. J'aime ça quand c'est organisé, puis que j'aime ça quand mes enfants vont être en sécurité, puis quand ils manqueront de rien. Fait que vous pourrez, après le culte, parler avec Claudine ou avec Benjamin puis leur demander quelle était l'atmosphère avant qu'on parte en camping pour m'assurer qu'on manque de rien. C'était pas toujours rose, Mais on manquait rarement de quelque chose.
C'est vrai, l'ambiance n'était pas toujours rose. Mais bon, c'est pas de ça qu'on se souvient. Je me souviens de la chasse au trésor. Ça fait que c'est pas si pire.
C'est bon.
Aussi, moi, c'est la sagesse. Moi, la sagesse, c'est écrit dans la Bible qu'on peut en demander tant qu'on veut. Fait que quand mes enfants, ils me disent « Prie pour que Dieu y t'aide », je suis comme, à chaque fois qu'on prie, les amis, là, peu importe ce qu'on te demande, là, ils te donnent une goutte. Dieu te donne une goutte de plus de ce que tu demandes. Je trouve que c'est important de prier souvent. Parce que le plus souvent que tu pries, le plus ton verre, il se remplit. Hein, parce que c'est pas comme « Seigneur, donne-moi de la sagesse ». Là, ça vient Là, t'es rempli de sagesse. Hein? C'est pas comme ça que ça marche. Il donne une goutte. C'est ça, en tout cas, c'est l'image que je me donne à moi. Il me donne une goutte. Ça, c'est une prière que je fais souvent. Seigneur, donne-moi de la sagesse. Parce que c'est écrit, demandez de la sagesse à tous les jours, puis je le demande. Pourquoi? Parce que les modèles qui m'inspirent, à qui je veux ressembler, c'est la qualité qu'ils ont le plus. Une sagesse. Moi qui est très spontanée et directe et la sagesse dans les fois c'est pas tout le temps ça qui me vient en premier mais c'est vraiment ça que j'aspire à être pour mes enfants.
Puis l'autre chose, l'enseignement plein de bonté. On apprend souvent à valoriser l'enseignement qui a plein de notes ou qui a plein de performances. Mais la Bible, elle nous rappelle de l'enseigner avec pleine bonté. Puis quelqu'un qui enseigne avec bonté, sa préoccupation, c'est de montrer puis que l'autre apprenne. Pas d'évaluer ce qu'il sait, mais d'y donner une chance d'apprendre. Puis je sais que je n'ai pas été un modèle, mettons, pour Claudine, d'y donner une chance d'apprendre, parce que je trouvais que ça ne va pas vite quand on le montre. Puis Claudine, elle disait, ben souvent, je venais te voir, là, puis tu le faisais à ma place parce que, fait que j'ai pas appris à coudre, puis j'ai pas appris à cuisiner, puis j'ai pas appris parce que tu l'as toujours fait vite. Mais Dieu est bon.
Parce qu'il m'a donné un mari qui aime cuisiner.
puis Dieu est bon. Puis Dieu est bon parce qu'il m'a donné 10 petits-enfants, puis j'ai appris à leur enseigner. Avec bonté, à prendre mon temps, de ne pas le faire tout le temps à leur place, juste une fois de temps en temps.
Puis je trouve qu'aussi, enseigner, ça va tellement plus loin que moi, j'aime ça jaser depuis que je suis petite sur la vie. J'aime ça trop réfléchir à la vie et je le fais encore aujourd'hui avec mes enfants. Et j'apprends en psycho que d'un fois, ils n'ont pas le cerveau assez développé pour jaser de tout ça. Alors, ça ne sert absolument à rien, toutes les discussions philosophiques que je peux avoir avec eux. Sauf que il y a différentes façons d'enseigner. Puis je pense qu'on y revient plus tard, mais je vais donner cet exemple-là tout de suite. En fin de session, là, moi, je viens envahie. Anxiété de performance. Et puis, je me rappelle, dans un souper, j'étais comme... Je regardais Luc, là. Et je me gérais pas, là, j'étais...
Elle regardait pas mon mari, mais le sien.
Oui, c'est ça, nos maris s'appellent Luc. Donc, j'étais comme... Là, je fermais les yeux comme ça, puis j'étais comme... Oh. J'arrivais plus comme à me contenir, il y avait comme... Ça l'explosait dans ma tête. Fait que quand l'enfant a fini de prier pour remercier le repas, je suis restée 2 minutes, le temps que tout le monde se mette à jaser, puis le chaos est... Et un beau chaos quand même, mais un chaos pareil... Je suis partie dans ma chambre, fermer la porte. Je suis comme, je vais me calmer parce que on dirait que j'arrive plus à être présente au souper. Je suis comme trop envahie par ma tête. Puis une couple de minutes après, je redescends. Puis je m'assois à la table. Puis je suis comme, bon, là, j'étais comme plus présente, tu sais. Ça allait bien, puis tout ça. Puis ma fille, elle me regarde. Es-tu allée dans ta chambre? Je suis comme, non, je suis allée aux toilettes. Puis là, je me suis mis à manger, tu sais. Mais ma fille, là, elle observe tout. Tu peux pas passer de vite à ma fille. Là. Elle m'a pas stinée parce qu'elle sait que c'est pas une bonne chose à faire avec moi. Elle fait comme, t'es allée aux toilettes. Mm-hmm. Elle m'a pas stinée, mais tu sais, c'est resté comme ça. Dans la même semaine, moi, j'avais 3 frères. Un qui m'a pas trop agacée parce qu'il est venu sur le tard, mais 2 qui m'ont... Un principalement qui me tombait ses nerfs. Tu sais, il aimait ça me piquer. Moi aussi, j'aimais ça le piquer. Mais ma fille en a 4 frères. Donc, des fois, c'est difficile pour elle, la vie. Donc, on était à la table et il a piqué, puis il était comme « Arrête, lâche-moi. » Elle a pitché ses fourchettes et est partie s'enfermer dans sa chambre. Là, je fais comme... Là, j'ai regardé mon mari, je fais comme... Elle savait tellement que j'étais allée dans ma chambre. Mais tu sais, je trouve ça beau, tu sais, quand je dis qu'on n'enseigne pas juste par ce qu'on dit, par nos idées philosophiques, par nos concepts qu'on peut essayer de leur faire rentrer ou par la lecture de la Bible, même si c'est vivant la Bible puis le Saint-Esprit, mais on vous reconnaîtra pour vos fruits, hein. Ça, c'est écrit dans la Bible. Puis c'est pas juste les non-chrétiens qui vous voient de loin et vous reconnaîtront par vos fruits. Non, non, nos enfants vont nous reconnaître par nos fruits. Nos enfants vont vouloir ce qu'on a si on veut du bon fruit. Si on n'a pas vu du bon fruit, là, ils vont faire 2 + 2, ça marche pas, là. Ils vont aller me chercher mon bonheur ailleurs. Ils vont aller me chercher mes solutions ailleurs. Mais s'ils voient les fruits, c'est là que je vois la pertinence du bon enseignement, tu sais, du bon modèle.
C'est bon. On s'est pas mis de timer comme Sylvie, on aurait peut-être dû. OK. Dans la Bible, ça dit « Combien de fois j'ai voulu rassembler mes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. » Mais là, je vais juste vous parler du caractère de Dieu. Combien de fois que Dieu... C'est un rassembleur qui veut qu'on trouve refuge en lui. Puis c'est le rôle de la mère, hein, d'être protection, de rassembler ses petits en dessous de lui. Puis une mère est heureuse quand elle a ses petits en dessous, là. Hein? C'est comme ça. Puis pour moi, c'est important qu'il y ait cette intimité-là avec mes enfants, qu'ils n'aient pas peur de venir en dessous de mes ailes. J'apprécie beaucoup Benjamin. Parce que lui, il vient toujours en dessous de nos ailes, puis il n'a pas peur. Puis c'est une grande richesse, Ben.
Aussi, je vais peut-être apporter un petit... Quand on est des familles adoptives, moi, je suis famille d'accueil, je ne suis pas une famille d'accueil adoptive, mais des familles d'accueil mixtes. Adoptive. Donc, les familles d'accueil mixtes adoptives, donc c'est comme des familles d'accueil, mais qui ont des enfants qui sont à 95% sûrs d'être adoptés. Donc, une famille d'accueil régulière, on prend un 25 sous puis on tire, puis on ne sait pas s'ils vont être nos enfants, si on va partager nos enfants toute notre vie avec les parents biologiques, tu sais, on ne sait pas. Mais quand tu es une famille d'accueil mixte, donc en adoption, on dit que faut faire pendant plusieurs mois le cocon familial qu'on appelle. T'es pas supposé de voir tes amis, t'es pas supposé de voir même ta famille, t'es pas supposé de voir de sortir même à l'extérieur. T'es supposé de rester chez vous pendant des mois pour que l'enfant associe-toi à son refuge, pour que l'enfant quand il se fait mal, il sache vers qui se retourner. Il sache, tandis que si tu vas voir ta mère, qui est grand-mère, qui est capote que tu aies un nouvel enfant dans ta vie, puis si l'enfant, il tombe, bien, la grand-mère va venir prendre soin. Ça fait que là, l'enfant est comme, OK, il y a plusieurs personnes qui prennent soin de moi, OK, je sais pas, OK, c'est qui, vers qui je me tourne. On veut éviter ce conflit-là chez l'enfant, même s'il y a une belle intention. On veut vraiment que, quand je me fais mal, ma sécurité est dans mes parents. Ma sécurité est là, puis ils vont toujours, à chaque fois que je tombe, à chaque fois que je me fais mal, à chaque fois que je suis pas sûre, c'est chaud, pas chaud. Hein, les enfants, ils font comme, tu sais, souvent, ils font le petit regard, oui, non. T'sais, pour te demander une permission, pour voir si tu es en accord, pour tout ça. Puis on veut que les enfants, ils développent ce réflexe-là de se retourner vers les parents, qui ça les apaise, les enfants, d'avoir les parents proches. Ça les apaise de savoir, il y a la réponse. À un moment donné, quatre, qu'on n'a pas toutes les réponses, mais tu sais que jeune enfant, il sache vers qui se retourner. Tu sais, en tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir ce réflexe-là de se tourner vers Dieu quand on n'a pas la réponse à tout. Tu sais, et ça, je trouve que un enfant qui se retourne vers une mère, c'est parce que la mère, elle a réussi sa job. C'est parce qu'elle a vraiment créé cet attachement-là avec son petit.
Merci, Ben.
Nous autres, on avait la cuillère. on se niaise, moi puis mes frères, on dit, Ben, il y a eu des parents, grands-parents, docteurs. Nous autres, on a eu des jeunes parents missionnaires. On a appris les mêmes choses différemment. Le Ben, il nous console, puis nous, on le console. C'est qu'on se retrouve là-dedans. En tout cas, et voilà. Je ne vais pas mettre trop Ben en avant. Là.
Non, parce qu'il ne nous parlera pas à l'heure du dîner.
Il ne viendra plus voir sa poule.
OK. Il donne une famille à celle qui était stérile. Il a fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Ce qu'elle peut bien dire, elle a eu 4 enfants. C'est quoi ça, cette idée-là de la mère stérile? Mais rendu à mon âge, il n'y a pas personne qui a des cachettes. Là, je suis stérile. Mais depuis que je suis stérile, je n'ai jamais eu autant d'enfants, mais sans douleur. J'ai 10 petits-enfants. Puis c'est pas parce que je suis pas leur mère que je les ai pas adoptés dans mon cœur. Puis ça, ça vaut au niveau réel, puis ça vaut au niveau spirituel, puis ça va à tous les niveaux. Que c'est pas parce qu'on a un utérus qui fonctionne pas ou qui fonctionne plus ou qu'il y a pas ce qu'il faut pour fonctionner qu'on n'est pas, que Dieu nous donne pas une famille.
Là, je suis en train de me demander pourquoi j'ai écrit identité. On l'a vérifié pourtant ensemble. Mais oui, absolument. Donc, moi, je n'étais pas supposée avoir d'enfants selon les médecins. C'est pas ce médecin-là, il est correct. C'est pas lui qui m'a dit ça. Qu'est-ce qu'ils en savent? Puis j'ai appris ça une fois mariée. C'est souffrant pour une femme d'apprendre ça une fois mariée que tu ne pourras pas avoir d'enfants. Même si ado, moi, je ne voulais pas mettre d'enfants dans ce monde cruel. Il n'y avait rien de bon à offrir. Les hormones, ils viennent.
Je voulais pas être une mère terrible.
Mais tu sais, les hormones, y arrivent, puis t'as le goût d'être mère quand même, là, dans ce monde terrible-là. Là. Les hormones, c'est fort. Mais c'est ça. J'ai comme eu un kiss qui a éclaté. On a failli m'enlever un ovaire, puis ils m'ont dit, t'as 25% de chance de tomber enceinte, puis une fois enceinte, t'as 75% de chance de perdre cet enfant-là. En fausse couche, c'est que, tu sais. J'étais quasiment pas triste pour moi, mais pour mon mari, je suis comme... J'allais dire le F-word. Zut! il est pogné avec moi, puis je pourrais pas lui donner ça, tu sais. Je suis comme, Colin, tu sais. C'est dur pour une femme de vivre ça. Puis on était... puis là, j'avais parlé d'être famille d'accueil. Il était comme, nope. Non. Puis ça, c'est jeune marié, là, notre première année de mariage. Puis pas longtemps après, on est allé un an au Mexique travailler dans un orphelinat. Puis le hasard a fait en sorte que on a pris en charge 3 enfants. Donc, ils ne dormaient pas chez nous, mais on s'en occupait du matin au soir. On faisait des devoirs avec eux, ils soupaient avec nous, puis tout ça. La mère a travaillé au champ toute la journée, donc on les avait pris sous notre aile. Donc, sans que je sache, Dieu a adouci le cœur à mon mari par rapport à l'idée d'être famille d'accueil. Et puis, mon père avait une amie au Mexique qui habitait en ville, puis je l'avais croisée. Et puis, tout comme bonne personne qui voit un spécialiste par hasard, à un certain niveau, vide son cœur par rapport à ce qu'il vit. « Ah, mais docteur, savez-vous que moi, je ne pourrais pas avoir d'enfant? » J'ai dit ça, c'est une gynécologue au Mexique. J'avais dit ça en pleurant. Puis j'avais vidé mon cœur par rapport à tout ça. Puis elle, aucune émotion. Très froide par rapport à ce que je vivais. Et elle m'a dit, si tu veux, avant de retourner au Canada, tu vas être enceinte. Je te prends en charge, puis tu es enceinte. Alors là, je fais, wow! No, what? Pas là? Hein? Ça fait que, mais elle m'a dit, ben oui, elle dit, là, elle dit, c'est n'importe quoi, là. Elle dit, si tu es stressée de même, c'est sûr que tu tomberas jamais enceinte. Mais si tu te gères... Puis, puis tu m'aides à... Puis je te suis. Avant que tu retournes au Canada, tu vas être enceinte. Elle m'a donné une sécurité épouvantable. Donc, j'étais pas prête à tomber enceinte. Mais dans ma tête, c'est comme, si ça marche pas, je reviens au Mexique. Je vais aller la voir quand je serai prête. Donc, c'est ce que je m'étais dit. Elle m'avait vraiment enlevé le stress, puis ce fardeau-là, puis cette souffrance-là. Puis en revenant du Mexique, ben on regardait le journal. Là. Dans le temps qu'il n'y avait pas tant Netflix puis tout ça, on s'entretenait autrement. Puis il y avait comme une annonce pour famille d'accueil, une soirée d'information. J'ai fait, hey, ça nous engage absolument rien, mon amour. C'est là, on pourrait juste comme y aller. Puis il y avait, ah ouais, go. Il était fou. Il était plus ouvert, à ma grande surprise, à cette idée-là. Ça fait qu'on est allé à la première rencontre, coup de cœur, je dirais. Et on a décidé d'entamer les démarches extra-intrusives de devenir famille d'accueil parce qu'ils te posent toutes les questions inimaginables. Et pendant les démarches, j'ai dit à Luc, « Ah, oh, s'essaye-tu, tu sais, d'un coup, là, ça nous prend 10 ans puis que ça marche pas, on n'a rien à perdre. » Et fait « Go! » 3 semaines après, j'étais enceinte, positif. C'est avec la gynécologue, elle avait raison. Donc, j'ai réussi à être mère biologique, on va dire. Puis après ça, la DPJ, moi, j'ai détesté être enceinte. Vraiment, chapeau aux mères qui aiment la vie, qui poussent en eux. Moi, je suis pas de ce genre-là. J'étais contente d'avoir eu mon enfant, mais moi, j'avais de la morphine, puis j'étais couchée 3 mois avant que j'accouche, là, donc c'était rien de comment dire, magique et merveilleux pour moi.
C'est pas l'exemple que j'avais de montrer, parce que pour moi, être enceinte, c'était vraiment des belles périodes de ma vie, que je pétais le feu, j'avais pas de nausée, j'avais pas de aucun symptôme désagréable, puis non.
Ouais, moi, j'ai souffert et mon mari en a souffert plus. C'était horrible. Je m'excuse, mon amour. Après, c'est la, tu sais, la moyenne d'âge à l'époque, parce que j'ai fait mes démarches à Lanaudière pour des familles d'accueil, était de 52 ans, les familles d'accueil d'âge moyen qui accueillaient des enfants. Puis nous autres, on trouvait que ça avait aucun bon sens. Avec des petits jeunes naïfs de la vie, la DPJ était très intéressée. Et ça n'a jamais été pour nous un obstacle d'être chrétien, on l'a dit, on a été extra transparent avec eux, ça n'a jamais été un obstacle. Donc, c'est eux qui nous ont rappelé, est-ce encore intéressé? Et moi, j'étais grandement intéressée, loin de moi, l'idée d'être enceinte encore une fois dans ma vie. On est devenu famille d'accueil, puis... je vous dirais, les 7 premiers mois, je pleurais beaucoup, beaucoup, parce que le call-in, j'aime pas de la même façon mes enfants en famille d'accueil que j'aime mon enfant biologique. Puis ça, c'était comme une autre souffrance à vivre en tant que maman. Tu sais, on dit mère joyeuse au milieu de ses enfants. C'est pas mes enfants. Pourquoi? Ben c'est mes enfants, mais pourquoi je suis pas heureuse? Pourquoi je souffre à ce point-là? Pourquoi... Pour expliquer une différence, mettons que mon enfant se serait coupé intense. Ézéchiel, je le prends, je le serre et au niveau émotif, c'est le chaos. Et je suis zéro rationnelle, puis je le tiens, puis j'ai peur, puis je vis ça émotionnellement. Si un de mes enfants de cœur fait ça, je suis comme, oh mon Dieu, go, on appelle les urgences. Non, 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 je suis full efficace. Mais j'aurais donc aimé ça, les prendre, puis sentir ça. Puis on va se le dire, ça faisait quand même juste 7 mois qu'il était chez nous, là. Ézéchiel, je l'avais quand même porté 9 mois. J'ai quand même vu une différence après 9 mois. Un autre sujet, mais je trouve ça intéressant. Mais Dieu m'a montré, est-ce que t'aimes Ézéchiel comme t'aimes ton mari? J'ai dit, non, vraiment pas. Dieu merci. Mais je l'aime autant. J'aime autant Luc que j'aime Ézéchiel. C'est juste un amour différent. Puis j'ai réalisé que mes enfants de cœur, c'était la même chose. J'étais comme, ah, Caroline, OK. Je les aime à la folie, ces enfants-là. C'est juste un amour différent, tu sais. J'ai réalisé que oui, on peut être une mère heureuse puis épanouie. Puis ça m'a enlevé un gros fardeau que Dieu m'ait donné, ce cadeau-là, de voir ça sous cet angle-là. Puis tu sais, toutes les mères qu'on devient à différentes étapes de la vie, je suis sûre que ma mère, elle n'aime pas mes enfants comme la même amour qu'elle nous avait. T'sais, c'est comme des amours différentes qui existent. Puis j'ai vraiment réussi à vivre ça puis à être heureuse là-dedans aussi.
Mais moi, en tout cas, je peux te dire, Claudine, que c'est toutes de mes enfants de bédon. Puis il n'y en a pas un de vous autres que j'aime de la même façon. Parce que chaque enfant est unique, puis il vient nous chercher d'une façon différente, puis on connecte d'une façon différente, mais on vous aime tous pareil. Tous autant, mais d'une façon différente. Fait que je l'aime autant qu'Étienne.
Elle l'a dit, elle l'a dit! Elle l'a dit! Et c'est enregistré et ça va être sur le web. Case closed.
C'est parce que mes enfants m'agacent toujours avec Étienne, parce que c'est le plus chalifou de la gang.
Mais on est très, très sécure dans l'amour que nos parents ils nous donnent, donc ça ne dérange pas du tout d'en rire. Ici, je parlais d'identité. Je pense que cette slide-là, elle allait plus loin, mais je vais en parler tout de suite. On a un rôle puissant en tant que mère. Tantôt, j'ai pas fini mon idée sur le reportage que j'avais vu puis les mères de d'autres cultures qui disaient, je trouvais ça incroyable, elle disait, ici au Québec, on méprise beaucoup les femmes vieillissantes. Les gars deviennent plus beaux, les filles, on devient d'autres choses. Et c'est vu péjoratif de vieillir au Québec, c'est rien de riche, c'est rien de il n'y a pas beaucoup de valeur là-dedans donnée à nous. Et dans d'autres cultures, j'imagine presque tous ceux qui ne sont pas occidentales, quand tu arrives à la ménopause, tu deviens la sage du village, tu deviens celle remplie de sagesse, celle vers qui on se tourne quand on a besoin de conseils. C'est elle qui accompagne les enfants. Dans les petites filles dans leur transition de devenir femme. Puis la femme, elle disait, tu sais, chez nous, on valorise être femme parce que le mari part travailler. C'est nous qui décident ce qui arrive avec le futur de notre nation parce que c'est nous qui éduquons nos enfants. C'est nous qui leur transmet les valeurs. C'est nous qui veut... Qui va décider comment cet enfant-là va être formé. Je pensais que tu voulais dire quelque chose. Donc, je vais donner un exemple chez nous. Chez nous, depuis que mes enfants sont petits, ils sont un petit animal pour moi. Moi, j'étais la chouette à ma mère. On avait tous ici chez nous cette petite attribut-là. Puis nous autres, le mois dernier ou le mois d'avant, on s'est servi de l'intelligence artificielle pour venir créer des petits... On peut dire totem, moi, qui représente nos enfants. Là, j'en ai juste mis 4 parce que c'est tous ceux que j'avais à portée de main. Là, les autres sont dans le cellulaire de mon mari. Ça, c'est pas partagé, mais mon bébé Ellie, c'est ma petite coccinelle remplie de vie, haïssable, qui agace tout le monde sans arrêt, qui a une énergie contagieuse. Donc, c'est ma petite coccinelle depuis toujours. Kevin, Kikou, qu'on l'appelle, c'est mon petit ourson. Depuis toujours, c'est mon petit ourson. Puis, il y a une joie de vivre. Tu sais, j'ai montré ces images-là pour la première fois à Ezekiel ce matin, puis il a pu me dire qui était qui, là, comme ça. Ils ont reconnu dans leur personnalité, dans leur personnage. Puis c'est des choses que je mets de l'avant chez eux. Kikou, Kevin, il remarque toutes les belles choses chez les gens. Une éducatrice à l'école. Ah, vous avez changé vos boucles d'oreilles, c'est magnifique. Ils vous font vraiment bien. Maman, c'est toi qui as pensé au souper. Merci, t'es vraiment fine, j'aime ça. Tout, il en manque pas une, tu sais.
Même avec sa grand-mère.
Oui. C'est vraiment une belle qualité chez lui, puis on nomme.
Puis il se nomme la machine à bisous.
Oui, il se surnomme la machine à bisous. Il nous reste 10 minutes.
OK, on va
grouiller. C'est-tu vrai? Donc, il y a mon intellectuel, Ezekiel, avec sa crinière qui ne veut pas se couper, qui aime ça. Il y a Nathan, ma petite souris, qui aime les jeux de société.
OK. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Vous en rappelez, là, c'est quand il s'est approché, puis elle a dit, mes gars, peux-tu être assis à un à ta droite puis l'autre à ta gauche? Elle a intercédé pour que ces gars aient les meilleures places. Mais moi, je vais vous parler de l'intercession sous un angle de nos enfants, on ne les a pas toujours sous nos ailes, on ne les a pas toujours sous nos yeux, mais il faut lâcher prise, puis je ne sais pas comment les mamans non-croyantes font, parce que tu lâches prise à rien, mais quand on est croyante, on lâche prise dans les mains de Dieu. On est des intercesseurs pour nos enfants, puis pour toujours. Puis quelle consolation de savoir que Dieu qui nous aime va s'organiser pour que moi je sois heureuse. Puis comment je vais être heureuse, c'est si mes enfants sont heureux. Fait que soyez assurés, j'en connais plusieurs que leurs enfants sont peut-être pas en ce moment à la place qu'ils souhaitent pour leurs enfants. Mais que Dieu est fidèle. Puis qui aime les mamans, puis aime les papas aussi. Puis qui sait l'amour qu'on a pour nos enfants. Puis quand on intercède pour nos enfants, il va se passer quelque chose. Peut-être pas demain matin parce que lui, il n'est pas le genre McDo. Des fois, ça prend du temps, puis trop de temps qu'on trouve, mais il exerce notre patience. Mais découragez-vous pas, il est là.
Puis je vais rapidement dans la photo, est-ce que je suis fatiguée? Il y a 4 enfants sur la photo. Il y a 5 noms de famille dans la photo. Ils ont tous été mes enfants à ce moment-là. Là, il y en a une qui est partie, celle en haut. Elle a fait un court temps chez nous. Dans le fond, c'est les enfants qui sont arrivés en urgence chez moi. J'avais pas de place légale pour les accueillir, mais la DPJ a manqué. Je me sentais coupable à la laisser partir parce que elle venait de vivre un gros traumatisme du jour au lendemain. Elle habite plus avec sa mère. Et je devais y faire vivre ce traumatisme-là encore une fois. Parce que j'avais pas l'énergie de la garder. On était en train de mourir, moi puis Luc, on en avait 8 à cette époque-là. Mais la culpabilité qui m'envahissait, c'était fou. Là. C'est, je suis comme, j'ai un traumatisme à vie si je la laisse partir. Mais si je la garde, je vais mourir. Fait que, tu sais, il y avait l'espèce, je priais à Dieu, je m'abandonnais à lui. Puis, j'avais invité la famille qui l'adoptait à travers la DPJ, là, parce qu'on n'a pas le droit de savoir de nom ni de rien. J'ai dit à la DPJ, après, j'ai un love chez nous. J'ai dit, après venir habiter une semaine chez moi, la famille adoptée, pour faire une belle transition. C'est pour pas qu'encore une fois, tu les enlèves de chez nous, tu les mets là-bas, puis les autres, ils savent pas ce qui se passe, tu sais. Avec la famille, elle allait venir habiter chez moi pendant une semaine. Le couple, dans le fond, que ça faisait des années qu'ils essayaient d'avoir d'enfants. Puis c'était elle puis son frère, c'était des jumeaux. Et quand ils sont... Puis tu sais, on priait beaucoup pour ces enfants-là. Moi, puis là, on espérait que Dieu en prenne soin. C'était un couple chrétien que je connaissais de longue date, qui avait œuvré avec moi dans des camps de jeunesse à Montréal. Quand on s'est vus, là, la bouche à terre. On était comme, mais non, ils venaient de Laval. Moi, j'habite en Estrie. Tu sais, ça faisait aucun sens quand... humainement, mais pour Dieu, ça fait du sens. Dieu avait un plan pour ces enfants-là, tu sais. Fait que je trouve ça...
Les fruits de l'intercession.
Oui, vraiment.
OK. Je vous lirai pas le verset, mais vous rappelez l'histoire de Naomi et Ruth. Il y a eu de la bienveillance. Naomi, elle a aimé sa bru Ruth comme si ça avait été sa fille. Puis je sais que mes brus, je les aime comme si c'était mes filles, même si je ne suis pas leur mère. Parce que oui, c'est mes filles. Puis je regarde là, sur la photo du milieu, vous pouvez voir. Ce n'est pas celle qui a des lunettes, parce que ça, c'est moi d'un autre vie. Mais l'autre qui est à côté, elle, c'était ma mère spirituelle. On n'a pas de ressemblance physique, hein? Mais c'est Minerva. Quand j'ai commencé ma vie spirituelle, Minerva était là. Ben non, ils parlent fort, là, puis ils mettent de l'huile, puis ils crient, là, mais c'est pas grave, là. Dieu, c'est pas ça, là. Puis là, me rassurer de toutes les affaires que je comprenais pas. Dans quelle langue qu'ils parlent, là, je comprends rien, Minnie, puis ça me fait pas. Ben non, Lise, c'est pas grave, garde. Elle était toujours là pour me rassurer, pour me ramener à ma place, pour me dire, ben non, Lise. Respire par le nez, Jésus t'aime, puis ça va bien aller. Puis le petit garçon qui est en haut, lui, il avait perdu sa mère. Puis on était missionnaire dans ce temps-là, puis il est resté chez nous, dans notre maison. Puis quelques années plus tard, je suis retournée à mission. Puis là, il est venu me voir. Il dit, « Ah, là, t'as fini tes vacances. Mmh. » Mais c'est de voir que ces petits-enfants-là, puis ces gens-là, pour lesquels on a reçu ou on a eu de la bienveillance, il reste quelque chose de profond dans le cœur. Fait qu'il faut pas se gêner d'être bienveillant.
Là, j'essaie de parler plus vite. Ouais. Là, 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 parce que là, mon père, il va faire des gros yeux. C'est gros yeux. Donc,
ils sont pas si gros que les miens.
Donc, moi, cette femme-là, pour moi, elle représente beaucoup. Puis c'est ça, je trouve le fun. Tu sais, il y a beaucoup de monde ici que je vois comme qui viennent d'autres cultures. J'ai été cette personne-là à un moment donné. Hein, moi, j'ai grandi au Mexique. Donc, j'étais la petite châtain aux yeux bleus qui voulait donc être mexicaine. Et j'avais pas de famille. J'avais pas de famille quand j'étais jeune au Mexique. Mais elle, c'était ma tante. Puis j'avais des grands-parents, puis j'avais d'autres tantes. Je m'étais créée ma famille. Tu sais, puis même si c'était pas de sang, tu sais, il y a moyen d'être une mère pour ces personnes-là, une tante, une grand-mère, tu sais. Puis même... il y a une dame qui vient au comment ça s'appelle, au tribu enflammée, que j'ai parlé beaucoup. Elle est devenue mère pour ses voisins. Tu sais, la DPJ s'en est mêlée et ses voisins-là sont venus habiter chez eux. Tu sais, puis même si elle n'avait pas été habitée chez eux, elle était mère pour ses voisins-là qui avaient besoin d'elle. Tu sais, fait que c'est pas, faut pas s'arrêter à nos fonctions de mère, mais essayons de voir les opportunités partout qu'on a pour être mère.
OK.
Et on y va vite.
Oui, oui. OK. Ici, s'il dit, je garde en effet le souvenir de ta foi sincère, ça c'est Paul qui parle à Timothée, qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère et ta mère Eunice, et je suis persuadée qu'elle habite en toi. Mais ça, c'est la parole d'encouragement, de la fidélité de Dieu. Quand on... Puis avec les générations, ça se bonifie. Puis sur la photo, il y a plusieurs générations, on voit la grand-mère de Luc, sa mère, puis Claudine. Puis quand il y a de la bienveillance, ça se transmet de génération en génération. Puis s'il n'y a pas eu de bienveillance à votre égard, Dieu est bon pour couper ces chaînes-là, pour dire, là, c'est assez, on repart à neuf. Puis à partir de maintenant, il va y avoir de la bienveillance de génération en génération. Parce que je ne veux pas déprécier ça non plus. Parce que souvent, on est victime. Quand on est enfant, on est victime. Mais nos parents ont déjà été enfants, puis ont déjà été victimes. Qu'on ne peut pas leur jeter le blâme, c'est trop facile. Mais que quand on se met dans la peau d'un autre, on peut comprendre. Puis quand on comprend, on ne juge plus. Tantôt, je vous parlais de la violence de mon père. Bien, mon grand-père, que je n'ai jamais connu, avait la réputation d'être un homme hyper violent. Mais mon père a été violent. Puis moi, j'ai brisé le cercle. Fait qu'il y a de l'espoir. Puis on tourne la page, puis on sait que Dieu, il a tout vu. Il nous comprend, puis il nous console, puis ça change.
Que je rajouterais à ça, nous, nos enfants, même si la majorité sont adoptés, on n'a pas changé leur nom de famille, entre autres à cause de quelqu'un que je nommerai pas, parce que j'ai pas demandé, dans l'assemblée, qui m'a dit que son nom de famille, c'était un boulet pour lui avant, parce qu'il associait ça à son père. T'sais? Puis on avait une discussion, moi puis mon mari, parce qu'on était, tu sais, on avait, quand t'es famille d'accueil, tellement d'opinions autour de toi, de gens qui disent comment tu devrais faire les choses, puis là, t'essaies de te retrouver là-dedans. Puis quand il nous a dit ça, on a trouvé ça tellement beau, et il nous a dit, quand j'ai eu des enfants, j'ai fait, wow, j'ai racheté mon nom de famille, et maintenant, c'est rendu quelque chose de merveilleux. Fait que, tu sais, je trouve ça beau, puis je dis pas qu'ils auront jamais notre nom de famille, mes enfants, mais c'est pas mon choix. Tu sais, comment on dit, briser les chaînes, c'est quelque chose de merveilleux puis de puissant de laisser Dieu rentrer dans ta vie puis changer tes racines. Puis les mêmes racines vont porter du fruit. Tu sais, faut pas s'arrêter à genre, ah, là, je suis juste deuxième génération, troisième. Non, non, non. Dieu est extraordinaire, puis il peut prendre ce nom de famille-là, puis en faire quelque chose de beau. Fait que même si vous avez été blessé dans votre vie par des choses, perdez pas espoir, Dieu peut faire quelque chose d'extraordinaire, tu sais. Ça, c'est mon petit garçon qui prie. Je trouve ça beau. On n'a jamais appris à nos enfants à prier, mais ils vous ont vu, vous autres, à l'église. Ils ont vu mes parents, ils ont vu moi puis Luc. C'est beau. C'est beau de voir ça chez eux.
OK. Dans Ézéchiel, ça dit la fin d'un verset, « Telle mère, telle fille. » Ben, moi, je peux vous dire que plus on passe de temps avec Dieu, plus on finit par y ressembler. C'est comme hein, des gens qui vivent chez nous, on dit « Ah, il y a des aires de famille. » Les petits-enfants chez Claudine, ils ont des aires de famille.
Je me le fais dire, le petit blond, il ressemble à son père, Ézéchiel, puis tous les autres ressemblent à sa mère.
Hein?
Je dis merci.
OK. Ben, c'est la même chose avec Dieu. Plus je passe de temps avec Dieu, plus j'ai de chances d'y ressembler. Fait que la clé, passons du temps avec lui.
Je vais vite, vite, là. Là, j'ai changé deux mots dans la Bible. On n'est pas supposé de faire ça. Je risque l'enfer, mais je l'ai risqué. Donc, j'ai changé le « il » pour le « elle ». Elle est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'elle fait lui réussit.
OK. Si vous avez déjà remarqué un arbre, l'arbre, il dit pas « Ah ben, faut que je me force, là, je veux des fruits. Ah, je vais me forcer. Ah, les fruits arrivent pas. Qu'est-ce que je peux faire? » Non! Les fruits, ça découle de où on est puis de quoi on se nourrit. Mais nous autres, on est plus chanceux qu'un arbre parce qu'il y a des arbres qui fleurissent parce qu'ils sont proches d'un cours d'eau. Mais nous autres, on peut décider où est-ce qu'on va mettre nos racines. Fait que si je décide de mettre mes racines à la bonne place, j'ai pas besoin de me forcer. Les fruits, ça pousse tout seul des pommes. Il y a personne qui tire dessus pour qu'ils sortent. L'arbre, il force pas. Les fruits viennent tout seuls quand on est planté à la bonne place puis qu'on est alimenté. Il y en a des personnes, malheureusement, qui sont plantées à la bonne place, mais qui s'alimentent pas. Fait que ça fait un temps, là. Mais ça prend plus que ça. Faut être à la bonne place puis s'alimenter puis même être pollinisé, hein? Ça, polliniser, là, c'est juste nos frères puis nos sœurs dans la foi qui peuvent faire ça. Hein? Fait que soyons des arbres qui portent du fruit. Ouais?
Puis tout ce qu'on, les réflexes qu'on a dit, c'est pas des choses, des réflexes faciles d'intercéder pour nos enfants. Faut que tu t'arrêtes. Faut que tu le fasses. Fait que, c'est que c'est plein de petits sacrifices. Déjà, une mère, hein, c'est une vie de sacrifice, mais pour les faire. Pour les faire. Ça, oui, Dieu a mis plein de dons en nous. Faut les cultiver. Faut les cultiver. Puis même si ça demande un effort, un sacrifice, ça porte du fruit. Ça en vaut la peine.
Oui, puis aucun sacrifice n'est sans victoire. Puis ça, c'est ma victoire.